Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez profité de Pâques pour vous gâter un peu. Nous aurions voulu une émission plus légère, Fanny et moi, mais se dessine une autre source d'inquiétude sanitaire au Canada. La grippe aviaire hautement pathogène gagne petit à petit du terrain en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et Labrador, en Ontario et maintenant au Québec depuis le début d'avril. Cette maladie infectieuse se propage actuellement partout dans le monde. Elle se retrouve chez les oiseaux sauvages à destination et en provenance du Canada, mais aussi dans les poulaillers. Au Québec, ce sont 3 cas chez les animaux sauvages qui inquiètent. Les virus de l'influenza aviaire, dont le H5N1 est l'un des virus, se transmettent par voie aérienne et donc des particules dans l'air lors des contacts avec les oiseaux et les volailles infectés. Ils peuvent aussi se propager par contact avec les matières fécales. La bonne nouvelle, même si la transmission humaine est possible, elle reste encore bien rare. Cela ne représente pas non plus une menace pour la salubrité des aliments. Pour tenter de contenir la progression de la maladie, des milliers de volailles ont pourtant été abattues en France et en Europe. Est-ce que cela pourrait arriver ici aussi? Nous en parlons tout de suite. Ne quittez pas. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous voulions vous parler d'une autre crise sanitaire, celle de la grippe aviaire qui fait actuellement son chemin dans quelques fermes en Ontario, mais aussi en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve, Labrador. 3 cas d'influenza aviaire ont été trouvés tout récemment au Québec. Alors, faut-il s'en inquiéter? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Martin Pelletier, qui est agronome, directeur général de l'équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles. Bonjour.
Bonjour.
On est aussi en compagnie de Nancy Rowe, qui est directrice principale de la division de l'importation et l'exportation des animaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments et vétérinaire en chef adjoint. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes aussi en compagnie de Carl Gagnon, qui est professeur titulaire vétérinaire et virologiste à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Donc, les oiseaux sauvages sont des réservoirs permanents de virus et de nouvelles souches apparaissent le long des voies migratoires. Observées la dernière fois en 2015, je pense, au Canada, il semblerait que la grippe aviaire hautement pathogène fasse un retour dans certaines provinces et même peut-être au Québec. Cette maladie infectieuse a fait des ravages par dizaines de milliers au sein de populations d'oiseaux en Europe, particulièrement en France. Alors, devons-nous d'ores et déjà nous en inquiéter? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, faisons le point. Quelle est la situation actuelle dans les provinces canadiennes, Madame Rowe?
Oui, bonjour, bon matin. Donc, la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 au Canada a été... L'Agence canadienne d'inspection des aliments a avisé l'Organisation mondiale de la santé animale de la présence confirmée d'influenza aviaire hautement pathogène au Canada. Le premier cas de détection, tel que vous avez mentionné, a été rapporté dans la province Terre-Neuve et Labrador en décembre 2021. Par la suite, nous avons eu des cas en Nouvelle-Écosse qui ont été contrôlés jusqu'à présentement. Donc, nous avons eu 3 cas en Écosse rapportés dans des troupeaux de basse cour et non commerciaux et 1 cas de volaille commerciale. Et tout récemment, l'Agence canadienne a également confirmé la présence d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1 en Ontario également, dans des troupeaux commerciaux et non commerciaux. Donc, tel que vous avez mentionné, présentement, nous avons rapporté l'influenza aviaire hautement pathogène dans 3 provinces canadiennes et c'est certainement une situation qui nous préoccupe.
Oui. Monsieur Pelletier, est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
Je pense qu'il faut effectivement s'en préoccuper, étant donné l'impact très important que cette souche-là peut avoir chez les élevages commerciaux. Donc, on sait que chez les oiseaux sauvages, ils peuvent être porteurs asymptomatiques. Dans d'autres cas, il y a des oiseaux sauvages qui en meurent. Donc, ça varie selon les espèces. Mais les espèces commerciales sont particulièrement sensibles et on voit des taux. Si le virus entre dans un élevage, on peut voir des taux de mortalité extrêmement élevés, d'où des pertes très importantes là, pour les producteurs qui en seraient affectés.
Oui. Lorsqu'on parle d'influenza aviaire ou de grippe aviaire hautement pathogène, de quoi parle-t-on exactement, professeur Gagnon?
Bien, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une pléiade de virus influenza. Les oiseaux sont l'hôte par excellence pour être capables d'être infectés par des souches qui sont très peu pathogènes de différents virus influenza. Donc, ce que ma collègue vient de mentionner tout à l'heure, elle disait H5N1, mais dans les oiseaux, ça peut aller jusqu'à H16, donc il y en a de 1 à 16, et N jusqu'à 9. Donc, il y a une pléiade de virus influenza qui sont présents. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est qu'on fait face à une souche, à un variant, qui est extrêmement virulent pour nos oiseaux domestiques et qui a aussi le potentiel, finalement, de se transmettre dans plusieurs oiseaux sauvages. Donc, il a une forte présence dans les oiseaux sauvages et capable de coloniser, si on veut, différentes espèces. Et là, bien, on voit finalement une distribution. On a parlé de la situation canadienne, mais aux États-Unis, ils ont un nombre assez important d'éclosions dans plusieurs États américains. Donc, d'avoir les cas qu'on a présentement, qu'on a récemment eu au Québec dans les oiseaux sauvages, c'est pas surprenant parce qu'on est entouré finalement d'éclosions, autant de notre côté est, ouest que sud.
OK. Mais les bernaches reviennent. Est-ce que c'est inquiétant pour nous? Peut-être, M. Pelletier, est-ce que le fait qu'il y ait des migrations d'oiseaux, puis là, c'est le printemps?
Effectivement, puisque quand on regarde au-dessus de nos têtes, il y a beaucoup d'oiseaux qui passent ces temps-ci. Et comme le Dr Garnier a mentionné, aux États-Unis, il y a beaucoup de cas d'infection, autant chez les oiseaux sauvages, les élevages de basse-cour que les élevages commerciaux. Et on sait que là, l'intensité des migrations augmente. Et nous, bien, le Québec, on est sur le chemin de la voie migratoire de l'Atlantique qui est présentement fortement contaminée. Donc, tous ces oiseaux-là qui circulent et qui arrêtent, qui prennent des pauses dans les champs, près des plans d'eau, donc près des fermes, parfois dans les résidus de culture, là, dans les champs de maïs, par exemple, quand ils récoltent le maïs, il en tombe toujours des grains par terre. Donc, on voit souvent les oiseaux migrateurs arrêtés dans les champs puis picorer là, les résidus d'aliments, de grains qui restent. Oui. Parfois, ils peuvent se retrouver près des fermes et on sait que par leur fiente qui peuvent contenir le virus, ben il faut que nous, dans notre message aux producteurs, qu'ils soient rigoureux dans les mesures de biosécurité pour pas, par contamination croisée, rentrer, si on peut dire, de ces fientes-là dans les élevages et contaminer les oiseaux.
Oui. Madame Rowe, est-ce qu'il y a des espèces d'oiseaux sauvages qui sont surveillées? Comme là, je parlais des bernaches. Est-ce que ça pourrait être des bons porteurs? On espère
pas. Effectivement. Enfin, les oiseaux sauvages migrateurs et aquatiques sont le principal réservoir naturel des virus de la grippe aviaire. La maladie est très probablement dans les fermes a été introduite à partir des oiseaux migrateurs à longue distance. Donc, tous les oiseaux, les différentes espèces d'oiseaux sont susceptibles de la grippe aviaire. Comme mentionnait mon collègue, les oiseaux aquatiques se reposent dans les étangs, proches des fermes, proches des propriétés, entrent en contact et se mêlent aux oiseaux domestiques. Donc, le risque d'introduction de la maladie est directement en lien avec les parcours migratoires. Et ce qu'on remarque présentement, c'est que nous retrouvons la même souche d'influenza, de la grippe aviaire de sous-type H5N1, qui est reportée chez les oiseaux sauvages, mais aussi dans les troupeaux commerciaux. Donc, cette situation est alarmante et c'est pourquoi qu'on demande aux producteurs d'augmenter la biosécurité à la ferme pour s'assurer qu'aucune introduction là, possible par les différents vecteurs, comme mentionné par mon collègue.
Oui, on parlait pour Terre-Neuve, je pense, d'un goéland qui avait infecté. Est-ce qu'il y a des espèces d'oiseaux qui sont plus porteuses que d'autres, professeur Gagnon?
Bien, en fait, oui, hein, ça dépend de l'espèce, ça dépend aussi de l'âge. Ah. En fait, on sait que, par exemple, que les oiseaux sauvages adultes, on en a déjà vu plusieurs. Donc, ils ont un système immunitaire bien établi. Donc, souvent, par exemple, les oiseaux qui vont excréter beaucoup plus de virus, ce sont, par exemple, les jeunes oiseaux. Donc, les jeunes oiseaux sont, je dirais, une source plus importante de transmission de pathogènes. Il y a aussi, au niveau des signes cliniques, je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails, mais si on pense, par exemple, de canard versus de goéland, les signes cliniques peuvent varier. Okay? Donc, la sévérité de la maladie peut varier, mais lorsqu'il y a présence de signes cliniques, les signes cliniques peuvent être aussi légèrement différents en fonction de l'espèce d'oiseau qui se trouve être infecté.
Oui, donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qu'on voit généralement chez un oiseau malade? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous assurer finalement qu'il est porteur de la grippe aviaire?
Bien, en fait, il y a un volet extrêmement important. Lorsqu'on parle de souches hautement pathogènes, normalement, évidemment, le taux de mortalité va être élevé pour nos oiseaux domestiques. Mais normalement, je dis bien normalement parce qu'il y a une variation entre les souches. Donc, ce qu'on a présentement n'est pas tout à fait ce qu'on retrouve dans les, je dirais, dans nos livres de référence. Mais on va avoir, on peut voir par exemple ce qu'on va appeler des syndromes neurologiques. Donc, les oiseaux vont avoir la tête de position anormale. Les oiseaux vont être apathiques. Chez certains oiseaux, on peut voir aussi un syndrome plus diarrhéique avec de la diarrhée. Dans certaines conditions, on peut voir aussi apparaître, sans nécessairement avoir des avertissements préalables en termes de signes cliniques, des morts subites. Donc, les oiseaux vont mourir subitement. Mmh. Et puis après, ben là, le taux de mortalité va augmenter rapidement. Dans le virus qu'on parle présentement, on voit moins le syndrome de mort subite. Donc, on va voir des signes cliniques légers qui nous rendent un peu perplexes. Donc, ça va prendre quelques jours avant que ça s'établisse. Et puis là, tout d'un coup, on va voir la force avec laquelle le virus va tout d'un coup déclencher les problématiques dans les élevages. Donc, c'est sûr que ce qu'on dit à nos vétérinaires, c'est de vraiment porter attention à tous les signes cliniques et d'être très, très, très vigilant.
Oui, je sais que de tels types d'événements reviennent régulièrement. Il y en a déjà eu au Canada, professeur Gagnon?
Oui, en fait, je vais peut-être passer la parole à Dr. Rowe, mais pas, oui. En fait, parce que c'est au fédéral à gérer ces cas-là, mais je vous dirais que dans l'histoire canadienne, puis elle me corrigera si je me trompe, mais je vous dirais qu'il y a environ peut-être une éclosion d'influenza virus hautement pathogène à peu près à toutes les 5 ans. Et c'est normalement, ça provient des oiseaux sauvages. Mais ce qu'il faut distinguer, c'est que là, présentement, on est aux prises avec un variant d'influenza qui se transmet comme une...
Qui est très contagieux.
Très, très, très contagieux. C'est la grosse différence.
Oui. Madame Rowe, est-ce que c'est aux 5 ans qu'on voit ce genre d'événement?
Environ. Donc, effectivement, le dernier cas qu'on avait eu au Canada remonte 2015 en Ontario, tout à fait là, dans la même région en Ontario, mais aussi on avait eu précédemment des cas en Colombie-Britannique également au Canada. Donc la situation nous rappelle que la grippe aviaire se propage partout dans le monde. Donc, on voit la situation aux États-Unis. Et puis, le risque, comme je mentionnais, ça est vraiment en lien avec les voies migratoires. Présentement, c'est un virus qui est considéré endémique dans la population sauvage. Donc, la situation en Europe, la situation aux États-Unis et mondialement, étant donné qu'on a aussi des cas en Asie. Donc, c'est des situations qui, pour nous, très préoccupante. Mm-hmm. Et puis, effectivement, donc, la biosécurité fait partie des mesures de contrôle, mais on a vu le dernier cas datait de 2015. Donc, effectivement, on pourrait dire...
5-7 ans, oui. À peu près tous les 5 ans. Donc, l'état de la situation actuelle, qu'elle est toujours considérée comme en alerte au Québec avec 3 oiseaux porteurs de la maladie, Madame Rowe?
Oui, donc, Comme mentionnait mon collègue, l'Agence canadienne d'inspection des aliments est en charge de rapporter la maladie. Au Canada, l'influenza aviaire ou la grippe aviaire est une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi sur la santé des animaux. Ce qui signifie que tous les propriétaires d'oiseaux, vétérinaires ou laboratoires sont tenus de signaler immédiatement un vétérinaire de district de l'Agence canadienne d'inspection des aliments tous les cas qu'ils soupçonnent ou tous les cas qui sont rapportés atteints de la grippe aviaire. Et lorsque la grippe aviaire est détectée, l'agence est chargée de répondre pour mettre en place des mesures de contrôle pour empêcher la propagation de la maladie. On doit également rapporter à l'Organisation mondiale de la santé, l'OIE, et la situation présente, c'est que à ce moment-là, le Canada, lorsqu'on retrouve des cas de grippe aviaire hautement pathogène dans les troupeaux commerciaux, le Canada perd son statut exempt d'influenza aviaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des impacts, des conséquences au niveau du commerce international également.
Monsieur Pelletier.
Mais pour revenir pour revenir avec la situation présentement, lorsqu'on a un cas rapporté, donc il y a une intervention d'urgence que l'agence prend en compte. Donc, on travaille avec nos homologues provinciaux, les agriculteurs, les différents partenaires, les associations également pour éradiquer la maladie. Il y a un réseau présentement qui est actif, le réseau un centre national opérationnel d'urgence qui est présentement actif au Canada et dans les différentes régions pour s'assurer qu'on est capable de maintenir et de contrôler la maladie. Donc, les lieux infectés sont placés en quarantaine stricte et avec des mouvements de contrôle des animaux pour empêcher la propagation de la maladie. Donc, on établit des zones de contrôle pour s'assurer que la maladie est contenue et qu'il n'y a pas de transmission à l'extérieur de la zone infectée. Oui, donc, on met en place des mouvements de contrôle dans cette zone. On fait la destruction sans cruauté de tous les animaux qui sont infectés et exposés également à la maladie. On fait un traçage des animaux qui auraient pu être envoyés dans d'autres régions. Et par la suite, on s'assure qu'un bon nettoyage et désinfection des lieux pour essayer de revenir à un statut exempt d'influenza aviaire au Canada.
Entendu. Merci. Monsieur Pelletier. Comment ça se passe au Québec? La maladie, on avait un animal malade. C'est ça, il y a à peu près des jours, on en a vu 3 malades aussi. Là, on a l'impression que la maladie rentre ici et rentre peut-être dans les fermes. Est-ce que c'est le cas? Comment ça se propage?
Mais en fait, au niveau historique, et on se croise les doigts là-dessus, il n'y a jamais eu de cas d'influenza aviaire dans les élevages commerciaux. Ah. Donc, on peut pas présumer du futur, mais effectivement, aujourd'hui, la menace est plus importante qu'elle a jamais été pour le Québec, pour les raisons qu'on a discutées précédemment. Et donc là, on a eu 3 détections chez des oiseaux sauvages qui ont été déclarés le même jour là, par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et nous, de notre côté, notre rôle, c'est de travailler en prévention avec les producteurs, mais aussi les intervenants du secteur qui vont aux fermes avicoles. Donc, nous, on avait déjà, depuis plusieurs années, développé des protocoles de biosécurité. Donc, comment prendre les bonnes mesures à la ferme pour prévenir l'introduction, justement, des maladies. Puis, ça s'applique pas juste à l'influenza aviaire. C'est quelque chose qu'on travaille pour sensibiliser les producteurs, éduquer les gens sur les aspects scientifiques et techniques de propagation des maladies pour qu'ils puissent prendre les bonnes mesures à la ferme. Donc, c'est déjà, nous, on suit la situation depuis plusieurs semaines avec les premiers cas détectés dans les provinces atlantiques, ensuite l'évolution de la situation aux États-Unis, sachant très bien que les oiseaux migrateurs s'en viennent vers chez nous. Et donc, ça fait déjà quelques semaines qu'on est en mode de sensibilisation des producteurs et des partenaires du secteur et mobilisation à l'interne pour mettre à jour et s'assurer que nos plans d'urgence sont bien effectifs. Et le rôle de l'industrie, ben c'est d'être en appui. Si jamais il y a un cas dans une ferme commerciale, c'est d'être en appui avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, l'industrie a certaines expertises et nous, c'est de collaborer avec les instances gouvernementales pour ensemble collaborer pour minimiser les risques de propagation,
évidemment.
Puis aussi éradiquer le plus rapidement possible parce que il y a beaucoup d'activités, évidemment, dans le monde agricole. Hein, c'est un monde actif. Il y a beaucoup de produits et services qui doivent être livrés aux fermes pour que ça fonctionne bien. Et donc, notre rôle, c'est de travailler tous ces partenaires-là, d'abord en prévention. Puis s'il y a un cas, bien, c'est être outillé pour être aussi en mesure d'agir en intervention, toujours avec la CIA.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est important de rassurer les gens parce qu'il n'y a pas de transmission vers l'humain pour l'instant. Et confirmez-moi, c'est possible de manger une volaille même infectée, professeur Gagnon?
Les chances que ça arrive sont qu'on mange de la chair d'un animal infecté, les chances sont très rares parce qu'en fait, la virulence est tellement importante dans nos oiseaux domestiques que les signes cliniques vont faire en sorte que les vétérinaires qui sont responsables de la santé de ces animaux-là vont vite s'en rendre compte. Donc, le risque est imminent. Si jamais on devait manger de la chair d'un animal qui était porteur, les risques demeurent quand même très faibles parce qu'en fait, c'est un virus qui est aussi fragile. Donc, si on apprête correctement la nourriture, donc la cuisson, ça va éliminer tout ce qui pourrait être présent. Donc, le risque n'est pas là. La souche en cause présentement qu'on a, donc notre H5N1, elle n'a pas une préhension ou une facilité à infecter l'humain. Donc, de ce côté-là, on est assez chanceux pour l'instant. Faut malgré tout demeurer vigilant parce que le virus influenza, c'est un virus qui a une très grande capacité à muter, à s'adapter. Donc, évidemment, vous me demanderiez comment va être le virus dans un an. Je peux pas vous répondre. Je ne le sais pas. Mais le virus va évoluer dans le temps. C'est sûr et certain qu'il va le faire. Donc, il faut être prêt. Il faut assurer la surveillance. Et puis, les gens qui sont en contact étroit avec des oiseaux infectés sur de longues périodes, ben on le sait qu'il y a un risque de transmission à l'humain. Donc, faut demeurer vigilant.
Oui.
L'influenza demeurera toujours avec un potentiel de transmission à l'humain, provenant de l'influenza qui provient des animaux sauvages. Donc, on parle de l'influenza aviaire ici, mais ça pourrait être de l'influenza provenant de d'autres animaux. Donc, il y a toujours un potentiel de transmission à l'humain. Mais la souche dont on parle présentement, là, qui nous cause beaucoup de crainte pour la production de la volaille, c'est pas une souche qui, pour l'instant, est inquiétante de ce côté-là.
Entendu. Monsieur Pelletier, est-ce qu'on pourrait imaginer vacciner les poules et les oiseaux d'élevage pour prévenir un petit peu comme on fait pour la COVID?
Je sais qu'il existe des vaccins. Puis je pense que j'aimerais entendre le docteur Gagnon et Madame Roux aussi, puisque de ma compréhension de la politique canadienne au niveau de la CIA, c'est que si on utilise la vaccination, ça va avoir un impact sur nos exportations.
Ah.
Et donc la politique d'intervention première, c'est une éradication de virus. Souvent, la vaccination va être utilisée quand il y a une perte de contrôle. Et là, on veut assurer une sécurité alimentaire, donc par le volume d'aliments. Et dans certains pays, effectivement, ils ont dû se rendre à une utilisation du vaccin. Mais c'est comme une mesure de deuxième recours, puisqu'on veut, on veut d'abord s'assurer de ne pas masquer par nos tests la présence du virus et y aller avec la politique d'éradication en premier.
Pour pouvoir suivre la contamination.
Madame
Roux, la vaccination, est-ce que ça pourrait être une bonne option?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de mentionner mon collègue. Donc, oui, il y a un vaccin qui existe. Dans d'autres pays, certains pays l'utilisent lorsque la maladie est en propagation, hors contrôle. Donc, pour nous, au Canada, la mesure d'éradication pour éviter la propagation et d'obtenir notre statut exempt de la grippe aviaire est notre priorité. Présentement, la situation est contrôlé dans la province Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse. Donc, nous regardons la situation au Canada, comment elle va évoluer. Mais comme mentionnait mon collègue, les impacts sont vraiment au niveau commercial. Les impacts commerciaux existent lorsque nous utilisons la vaccination. Présentement, certains pays ont déjà appliqué des mesures temporaires de restriction à l'importation de certains produits de volaille. Essentiellement limiter, certains pays vont limiter la restriction à une province entière, à une zone infectée. Donc, ça dépend de chacun des exigences, des conditions d'exportation pour chacun des différents pays. Mais effectivement, présentement, la priorité pour nous, c'est d'éradiquer la maladie et de contrôler la propagation, s'assurer qu'on peut revenir à un statut d'exempt de grippe aviaire au Canada.
Entendu. Professeur Gagnon, et pour terminer, produit en France justement des euthanasies de masse pour enrayer la maladie au sein des poulaillers industriels. Le rôle d'un vétérinaire, n'est-ce pas, de protéger les animaux, mais des fois aussi la nécessité de veiller sur la santé humaine, c'est ça?
Bien, en fait, une des stratégies qu'on a, la première stratégie qu'il faut mettre en place, c'est vraiment, comme il a été mentionné précédemment, là, c'est de s'assurer qu'on suit les règles de biosécurité. Et souvent, c'est les failles au niveau de la biosécurité qui va favoriser la transmission. Mm-hmm. Mais lorsqu'il y a une infection, à l'heure actuelle, on a tellement un taux de mortalité élevé dans nos oiseaux domestiques que oui, on va procéder à l'euthanasie des oiseaux qui sont en fait des oiseaux de l'élevage, tout simplement parce qu'il faut penser au côté humanitaire de la chose, en ce sens que les animaux, plusieurs vont souffrir avant de mourir de l'infection. Donc, on doit intervenir de ce côté-là pour le bien-être animal. Mais on a aussi notre deuxième objectif, encore une fois, c'est qu'il faut penser à éviter la propagation du pathogène dans le reste de notre cheptel, de nos fermes, de nos élevages. Donc, c'est d'intervenir le plus rapidement possible. Et plus on intervient rapidement, ben plus aussi on diminue les risques de propagation. Donc je comprends très bien votre question, puis c'est déchirant pour plusieurs vétérinaires praticiens. On veut pas nécessairement en arriver là, mais c'est un pathogène avec lequel on n'a pas le choix d'en arriver là, malheureusement.
Donc merci beaucoup. On était en compagnie, donc vous l'avez entendu, de Martin Pelletier, agronome et directeur général de l'équipe québécoise du contrôle des maladies avicoles, de Nancy Rowe, qui est directrice principale de la division de l'importation et de l'exportation des animaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, et de Carl Gagnon, professeur titulaire vétérinaire et virologiste à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Fanny Robertscher. À la réalisation et micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions du jeudi à votre radio ou alors sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez-la. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique.